magnifique pièce que vous entendez s'intitule Continuum. C'est l'œuvre. Hein, la musique a été composée par Jaco Pastorius, je l'ai dit déjà, mais cette version très Yanvalou de cette pièce est absolument sublime et c'est l'œuvre de la famille Pajot. Et on poursuit, je vous avais présenté la musique il n'y a pas longtemps, on poursuit avec Steve Pajot. Alors, je ne sais pas si c'est lui l'aîné ou c'est lui le cadet, où il se situe dans toute la lignée, mais ce n'est pas important parce que toute la famille est extrêmement talentueuse. Et savez-vous quoi? Steve Pajot, et il fait partie de ceux qui sélectionnent, il fait partie donc du jury de ceux qui sélectionnent les gagnants aux Grammys. Steve Pajot, et bonjour.
Bonjour Henri, merci beaucoup pour l'invitation.
Oh, un plaisir parce que j'admire, je ne cacherai pas ma très grande affection pour Papa Fritz, hein, parce que il est d'une gentillesse et il a ce que je pourrais appeler, de lui se dégage une âme tout à fait extraordinaire et lumineuse, hein, parce que quand on lui parle, on découvre une sagesse et j'espère, mais je pense que c'est déjà là puisqu'on le constate aussi à travers sa lignée. Donc, vraiment un plaisir, vous lui direz toutes mes salutations les plus grandes pour 2021 et aussi au frangin. Alors, dis-moi, comment, on sait que Steve Pajot est un producteur, et il a produit P. Diddy, il a produit Aretha Franklin, la reine du soul, et comment c'est venu cette possibilité de faire partie du jury pour les Grammys?
Donc, comme vous avez dit, je suis producteur, donc j'ai pu amasser plusieurs crédits aux États-Unis comme producteur puis ingénieur de son. Donc, et puis ça m'a permis de rentrer, d'être membre pour l'Académie de la Recording pour les Grammys.
Mm-hmm. Mais dites-moi.
Donc, après avoir eu au moins 6 crédits, j'ai pu devenir membre autant pour l'Académie. Et puis depuis lors, à chaque année, je choisis parmi tous les artistes qui envoient leur soumission.
Donc ce sont les artistes qui proposent leur musique ou leur producteur?
Oui, c'est ça.
D'accord.
La compagnie disque ou bien les artistes. Mais c'est plus la compagnie disque.
D'accord. Mais faisons une petite parenthèse de secondes, parce que je sais que c'est pas dans votre style de pavoiser, mais disons, pour qui avez-vous produit de la musique?
J'ai produit pour Crazy Bone, un membre du groupe de rap Bone Thugs and Harmony, qui était très populaire dans les années 90. Mm-hmm. Ça, c'était ma première production aux États-Unis. Et puis Snoop Dogg, Corrupt et Lazy Bone ont fait partie de la chanson. Ça, c'était ma première production et puis ça a vendu plus de 1 million d'exemplaires US. Et puis ensuite, j'ai produit pour Aretha Franklin, Nick Cannon, qui d'autre encore? J'ai produit sur l'album de Hamilton Mixtape. Ça a vendu plus de 500 000 exemplaires. J'ai aussi travaillé sur l'album de 8Ball and MJG, un groupe de rap de Memphis. J'ai plusieurs crédits, j'en ai fait tellement. Bone Thugs and Harmony. Je produis aussi la musique pour les films, la télévision, pour VH1, toutes les grandes chaînes aux États-Unis.
Mais dites-moi, comme ingénieur de son, et après on va revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un producteur et qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur. Mais comme ingénieur de son, pour qui avez-vous travaillé?
Aretha Franklin. Mm-hmm. Tous les artistes que j'ai produits, j'étais aussi travaillé comme ingénieur de son.
D'accord. Donc vous avez pu combiner les deux. Bon, maintenant, expliquez aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est qu'un producteur. Parce qu'on parle souvent.
C'est comme le chef d'orchestre. Mm-hmm. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui a une vision pour savoir où la musique y va.
Okay.
Vous comprenez?
Mm-hmm.
Vous comprenez? Donc, c'est lui qui embauche les musiciens lors du studio, les arrangeurs. C'est lui le conducteur de le pilote d'avion. Donc, c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui a le premier mot, mais aussi en collaborant avec les autres, avec les musiciens.
Et
donc,
le...
si comme il y a quelqu'un qui peut écrire des paroles ou bien avoir une chanson, puis moi je l'écoute, puis moi je sais déjà qu'est-ce que je peux faire avec la chanson.
Mm-hmm.
Donc, même si on compose des chansons, ça ne veut pas dire que nous sommes des producteurs, vous comprenez?
Mm-hmm. Quelle est la démarcation, quelle est la séparation qu'il faut établir entre un producteur et un ingénieur de son?
L'ingénieur de son, lui, fait juste enregistrer.
D'accord.
Sur tous les instruments, il fait partie du mixage aussi. Lui, il faut juste enregistrer les sons. Donc, lui n'a aucun mot lorsqu'il s'agit de la production. Si le producteur lui demande pour son opinion ou bien des idées, là, il peut faire partie de la production. Mais en temps normal, l'ingénieur, il est là, il ne parle pas aux musiciens. Il parle aux musiciens pour leur dire, pour être sûr que leurs instruments sont bien accordés ou bien mm-hmm. le son est assez haut, le volume du son. Le volume du son est assez haut.
Donc, tout l'équilibrage, si on veut, au niveau de la production sonore, est extrêmement important à ce moment-là.
Oui, c'est très important.
OK. Je me pose souvent une question. Je ne veux pas cibler qui que ce soit. Et très souvent, par exemple, lorsque j'écoute, moi, de la musique, mon système n'a ni basse, ni treble, ni mid-range. Parce que j'écoute tel que l'ingénieur a voulu que la pièce musicale ou la chanson sonne. Et d'autres vont ajouter plein d'aigus, plein de mid-range, plein de basses. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît à l'ingénieur de son?
Ça dépend. Parce que chaque genre de musique, de chanson, a une façon d'être mixé.
D'accord.
Donc, si on écoute la musique classique, on ne va pas entendre beaucoup de basses fréquences. Ça a plus du mid à comme des hautes fréquences
mm-hmm.
dans le mixage. Si on entend la musique pop, on va vraiment entendre beaucoup de basses, beaucoup de kicks, parce que c'est ça qui va faire danser les gens dans les clubs. Et puis avec le rap aussi, le hip-hop, surtout dans la musique du trap, c'est plus le 808 qu'on va entendre. Donc l'ingénieur va plus se concentrer sur les basses fréquences.
Ok, mais je suis curieux. J'ai eu les explications, je trouve ça extrêmement fascinant, et j'aimerais savoir à quel moment Steve Pageot a senti qu'il avait le désir de que ce soit de produire ou être ingénieur de son.
Lorsque Michael Jackson avait gagné tous ses Grammys en 2004, là, après avoir regardé les Grammys, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. J'avais comme 14 ans.
Mm-hmm.
Et puis en plus, j'ai vraiment été attiré par la production de Quincy Jones. Et puis j'étais très, très intéressé en son travail. Donc ça m'a inspiré. Puis ça m'a permis d'apprendre plus sur la production et sur la composition.
D'accord. Et maintenant, quel est le rôle de la famille dans tout ça? Hein, parce qu'il faut que, à quelque part, Papa Fritz, même s'il est gentil, il doit se poser des questions. Est-ce qu'il fait le bon choix? Est-ce qu'il se trompe? Ou bien, d'emblée, il a été partie prenante de tout ça?
Ma famille a joué un très grand rôle dans mon parcours. Dans mon parcours et puis le parcours de mes frères. Ce sont eux qui ont payé pour tous nos cours de musique.
Mm-hmm.
Ma mère achetait les instruments, puis mon père nous apprenait à les jouer. Et puis ils nous envoyaient dans les meilleures écoles à Montréal. Moi, je suis allé à Pierre-Laporte, c'est la ville de Montréal. J'ai fait l'étude de la musique classique de secondaire 1 à secondaire 5.
Mm-hmm.
J'ai côtoyé plein de gens, plein de musiciens, dès l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai gagné le concours de musique du Canada. Ensuite, mes parents nous ont envoyés à prendre des cours de piano chaque vendredi à la congrégation Notre-Dame. Puis avant qu'on commence nos cours de piano, Justin Trudeau sortait de son cours de piano. On jasait pendant 15 minutes, puis ensuite, on commençait nos cours de piano. Donc, mon frère, lui, il a fait son parcours comme pianiste depuis l'âge de 8 ans. Il a déjà fait 4 tournées mondiales avec Madonna. Mon plus jeune frère, Anthony Pajot, lui, il est batteur. C'est le même parcours. J'ai acheté une batterie pour lui lorsqu'il avait 2 ans, une batterie de 3 ans. Ça va coûter $165. Mm-hmm. Et puis là, il est en tournée, il fait des tournées mondiales avec plein d'artistes. Pour revenir à votre question, lorsque j'avais demandé à mon père si je pouvais aller à Juilliard, c'est une école de musique très populaire, très, très connue à New York, mm-hmm. Il m'avait dit que ça serait mieux si j'apprenais un autre métier, parce que dans le temps, c'était quand même plus risqué. Mm-hmm. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé au collège et puis j'ai appris l'électronique et l'informatique, sans savoir que ça m'aurait servi. Que ça aurait été un outil très, très, très important, l'apprentissage de l'informatique. Et puis mes deux frères ont été, lorsqu'ils ont vu ce que moi j'ai pu faire en musique, donc c'est très facile pour mes frères pour continuer à McGill en musique.
Et dis-moi, si je comprends bien, Steve Pajot est producteur, il est ingénieur de son, il compose, il joue de la flûte, il est flûtiste. Hein? Il est également, il peut jouer du piano.
Oui, c'est ça.
Et il compose aussi. Non, oui. Et vous composez aussi.
Oui, je compose aussi, oui.
Ok. Alors, qu'est-ce que toute la famille joue un instrument? Si j'ose poser la question, qui est peut-être farfelue, quand est-ce que la famille va produire un album?
Ça, c'est une très bonne question. Récemment, on a commencé à parler de ce sujet-là, mm-hmm. avec mon père. Mm-hmm. Donc, je suis en studio avec mon père. Bah, presque tous les jours, on travaille sur des idées. Mes frères sont au courant. Ils ont très hâte. Mon père, il compose des chansons. Et puis, il me les fait entendre. Et puis je lui donne des directions. Donc, on espère sortir quelque chose, un produit en 2021. Mais c'est pas 2021, mais en 2022. Mais on travaille sur quelque chose de grand, de grandiose.
De grandiose. Mais ça m'étonne pas. Mais et dites-moi, par rapport avec l'œuvre de Jaco Pastorius, et j'imagine c'est le choix de papa.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est le choix de papa. Comment vous êtes mis ensemble pour pouvoir produire, c'est une pièce qui dure 3 minutes, qui a eu l'idée d'en faire un rythme yanvalou pour pouvoir l'interpréter?
Ça c'est mon père. Un jour, c'était au mois d'avril, il était dans le salon, puis il était en train de pratiquer la pièce, mm-hmm. et puis je lui ai dit, waouh, c'est super ça. Et puis il m'a dit, il aimerait faire quelque chose avec ça. Et puis j'ai dit, oui, moi je suis d'accord, en faisant quelque chose. Et puis le lendemain, il est descendu dans le studio, et puis il m'a dit qu'il aimerait le faire en yanvalou. Yanvalou, c'est un rythme folklorique haïtien. Mm-hmm. Parmi tous les rythmes qu'il existe en Haïti, ça c'est, il a trouvé que ce rythme, il est très bien avec le continuum. Mm-hmm. Donc, rendu en bas, il a joué la pièce et puis il a commencé à jouer les percussions, le tambour, quoi d'autre encore, toutes les percussions, c'est lui qui les a jouées. Et puis moi j'étais là et puis je suis en train de lui diriger, comme pour être sûr que tout était bien fait. Ensuite il a mis la basse, et puis lorsqu'on a... Après avoir fini de mettre d'enregistrer la basse, je l'ai envoyé à mon frère Ricky à Los Angeles. Lui, il a mis sa partie de piano. Lorsque tout ça était enregistré, il me l'a renvoyé. Puis ensuite, j'ai appelé mon frère Anthony. Et puis il est venu ici, et puis il a joué sa batterie, j'ai enregistré sa batterie. Et puis ensuite, à la toute fin, j'ai pu mettre ma flûte. Et puis c'est comme ça, cette chanson-là est... C'est comme ça qu'on a pu réaliser cette pièce-là.
Au fait, finalement, les rythmes haïtiens peuvent servir de fond à tout.
Oui. C'est dommage que les jeunes musiciens... Je peux pas dire tous les jeunes, mais il y a des jeunes qui font du travail, qui sont en train de puiser comme ils font des recherches. Mais nous, depuis que nous sommes ici, mon père nous fait entendre, nous fait écouter tous les rites haïtiens.
J'irai comme question, puisqu'on parlait de rythme haïtien et tout ça, si on prend le son Steve Pajot, dans tout ce que j'ai entendu, le son est clean, pour employer un anglicisme, il est clean, il est clair, et tout est à sa place. Alors, comment on fait pour concevoir quelque chose où tout est à sa place, finalement?
Moi, j'aime que tout soit, comme vous avez dit, clean. J'ai été inspiré aussi de Dr. Dre. Dr. Dre, tous les mixages de Dr. Dre étaient toujours clean. Donc, je l'ai utilisé comme guide de référence, comme référence pour faire mes mixages et de mes enregistrements.
La question que j'ai envie de poser, et là encore, je ne veux pas attaquer qui que ce soit. Par exemple, je prends Continuum, puisque c'est un exemple qui est présent. On entend tous les instruments de manière détaillée, tout est bien clean, l'arrangement, tout est à sa place, et on écoute certains, et je ne veux pas cibler, mais je prends l'exemple du compas, où tout est confus, tout est cafouillage. Comment expliquer ça?
Mais mon approche à la musique, c'est toujours comme une conversation. Lorsque je joue avec mes frères ou mon père, nous jouons tous ensemble. Mais si vous écoutez bien à nos performances, vous allez entendre une conversation entre chaque instrument. C'est comme lorsqu'il y a quatre personnes qui... Lorsqu'on retrouve quatre personnes dans une salle, ou bien dans une entrevue, dans un meeting, chacun a la parole, vous comprenez? Mais c'est pas tout le monde qui peut parler en même temps. Donc c'est ça l'approche, c'est notre approche avec notre musique.
Donc finalement, une belle conversation, que ce soit à quatre ou juste nous deux, et où on apprend énormément, où on découvre un talent qui est absolument monstre, et c'est mon opinion, donc qu'il y en a qui sont d'accord ou pas d'accord.
Remercier. Tout ça a été possible grâce à mon père. Depuis à l'âge de 2 ans, j'ai commencé mes cours de guitare. Lorsque ma mère allait travailler, c'était mon père et moi, on pratiquait la guitare, il m'apprenait à lire la musique. On m'a acheté une guitare aussi, c'était mon premier instrument. Donc, chaque dimanche, on écoutait des vidéos, puis on pratiquait dans le salon, lorsqu'on habitait à Côte-des-Neiges. Et puis, admettons, à chaque fois qu'on écoutait une chanson, il nous demandait toujours c'est quoi le rythme, c'est quoi le temps. Fallait répondre, on avait au moins une minute, pas plus qu'une minute pour trouver la réponse. Donc ça a été comme un exercice. Soit on écoutait du jazz, la musique latine, du compas, la musique classique, on écoutait de tout. Donc on a pu développer un langage musical très très approfondi.
Donc Steve Pajot, un grand merci, le temps court à la radio, j'aurais aimé poursuivre cette conversation à n'en plus finir, mais il faut y mettre fin. Et un grand plaisir et merci encore et salutations à toute la famille.
Merci, c'est moi qui vous remercie.